I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans les Fous du Volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en forme ?
Salut Gilles, salut à tous, oui en forme, et toi Gilles ?
Ça va, impeccable. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Comme ça, à chaque nouvel épisode qu'on produit avec Stéphane pour les Fous du Volant, et bien vous retrouvez ce nouvel épisode directement sur votre application. Au menu du jour, Lewis Hamilton. Jusqu'où s'arrêtera-t-il ? Ça y est, il est seul désormais avec 92 victoires en Formule 1. On reviendra sur le cas du Britannique. On va parler aussi, après ce Grand Prix du Portugal, de l'éclaircie sous la pluie de Ferrari. Jeu de mots, je vous laisse y réfléchir. On parlera aussi du marché des transferts du côté des pilotes avec deux scandales qu'on sent venir, ou en tout cas qu'on anticipe un petit peu avec Stéphane. On vous en parlera et puis on terminera avec Romain Grosjean, qui va terminer la saison et qui s'en ira de la Formule 1. Et on vous dira que c'est passé tout près d'une immense carrière en Formule 1 pour le Français. Mais donc on commence avec celui qui, pour le coup, a vraiment une immense carrière. C'est Lewis Hamilton. On en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, Stéphane, avec ce record égalé de 91 victoires avec Michael Schumacher. Ça y est, dimanche dernier, il a remporté sa 92e victoire. Il est tout là-haut désormais. 92 succès en Formule 1. La 8e victoire cette saison pour Lewis Hamilton, qui a 256 points désormais au classement des pilotes. 77 points d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas. Il a fait le coup du chapeau à Portimao, la pole, la victoire, le meilleur tour en course. Et alors, dans le chaos du premier tour, il a décidé de lever le pied en laissant carrément passer Valtteri Bottas et Carlos Sainz, qui était suffisamment opportuniste pour en profiter. Alors, il y a deux façons de voir les choses, hein, Stéphane, sur ce choix de Lewis Hamilton. Soit un refus de l'obstacle, mais connaissant le garçon, ce n'est pas trop son genre. Alors, soit une confiance en soi inébranlable. Bon, vas-y, passez, montrez-moi comment ça se joue devant, et puis je vous réglerai votre compte plus tard. C'est le sentiment que tu as eu, Stéphane ?
Alors, d'abord, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il se sentait un petit peu perdu. On a vu en fait que tout le monde avait un problème de grippe, c'est évident. Mais la piste était humide. Alors, c'est là où on peut quand même choisir d'être suiveur, parce qu'on voit un petit peu, et puis c'est celui qui précède qui fait la trace, et puis s'il fait une erreur ou une faute, on se méfie tout de suite. Donc, la piste était humide, mais elle n'était pas mouillée. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de projection d'eau. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup mieux d'ouvrir la piste. Même si on prend des risques, c'est beaucoup plus confortable. Et Hamilton a eu ce discernement extraordinaire, digne d'un champion, de se dire, eh bien, je vais attendre de voir ce qui se passe. Mes pneus ne sont pas en température, c'était des pneus médiums. Et puis, effectivement, il a vu surgir d'abord Bottas, qui a choisi de prendre la course à son compte. Et puis ensuite, Carlos Sainz, qui avait des pneus tendres. Donc ça s'expliquait assez facilement. Et puis, il a laissé passer l'orage. Il est revenu et il l'a expliqué à l'arrivée. Il a dit, j'ai laissé passer Bottas en me disant que je repasserai plus tard, ce qui est quand même incroyable. Petite particularité de la piste de Portimao, elle est quand même assez large. Donc, sur ce type de revêtement un petit peu humide, gras, on peut tenter des choses pour dépasser un concurrent. Et puis, aussi, sur une piste comme ça, on peut varier les trajectoires. En fait, lui, il a dit qu'il avait fait des expérimentations pendant la course, en variant les possibilités, en recherchant de l'adhérence partout. Et ça, c'est juste incroyable. Ça me rappelait ce qu'il avait dit aussi au Castellet en 2018 sur une piste entièrement sèche. Il a dit, c'est fabuleux ce genre de piste. Il y a plusieurs trajectoires possibles. Et j'ai passé mon week-end, en fait, à chercher la meilleure trajectoire. Et c'est ce qu'il a fait. Et Toto Wolff l'a dit à l'arrivée, Hamilton, c'est un champion qui est en recherche constante de progrès, d'expérimentation. Et on l'a vu encore.
C'est étonnant, en fait. Ils s'amusent pendant que les autres se luttent pour rester en piste. Bon, alors, 92 victoires, on en est à 97 pole positions. La barre du centenaire, à la fois du côté des pôles, va arriver très, très, très vite. Celle des victoires en Grand Prix, il va falloir attendre un petit peu plus. Et le septième titre, tout ça, c'est à mettre dans la même case. Ça n'est qu'une question de temps, désormais, pour Lewis Hamilton.
Oui, alors, c'est l'homme qui, le pilote qui vole de record en record. Ce qui est marrant, c'est que c'est plus simple, finalement, Gilles, de te dire où est-ce qu'il n'a pas fait la pole position dans sa carrière, sur quel circuit. J'ai noté Manicourt, Courtois, donc le circuit d'Istanbul, et Greta Noida, le Grand Prix d'Inde. Alors, il a couru quand même 5 fois à Istanbul sans faire de pole position. C'est une anomalie qu'il va peut-être pouvoir corriger bientôt. Et puis, concernant les victoires, il y a 4 circuits où il n'a pas gagné. Ce circuit du Grand Prix d'Inde, Manicourt encore, Valence, et puis Yongam, le Grand Prix de Corée. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus que quelques oublis dans son palmarès pour ces 4-là qu'il ne pourra a priori jamais réparer. Mais on se dit effectivement que là, il est en train de refaire tous les niveaux de statistiques. C'est juste incroyable. Et on ne pensait pas qu'il pourrait battre ce record de 92 victoires de Michael Schumacher. Mais je dirais qu'en fait, Hamilton, il a été très fort pendant du samedi au dimanche. Au samedi, parce qu'il a fait aussi des choix cruciaux pendant la qualification. 2 tours en pneu médium, tout en fin de run. Alors que Bottas avait choisi un seul tour et de rouler avec moins d'essence dans sa voiture, donc qui lui donnait un petit avantage de quelques dixièmes. Hein. Ça s'était calculé, normalement ça devait passer, et bien non. Hamilton est le dernier mot pour 1/10. Et puis en course, il fait une démonstration d'utilisation des pneus avec les médiums en termes d'usure. Il les a poussés très très loin et Bottas est à l'agonie. Là, il creuse un écart de 10 secondes, et puis même en dur après, il en remet une couche. Il arrive avec 25 secondes, c'est le plus gros écart cette saison entre le premier et le deuxième.
Et puis on l'a dit, hein, donc ce point du meilleur tour en course. Alors, il reste un point à éclaircir, c'est que les semaines et les mois passent et le contrat de Lewis Hamilton s'achève toujours à la fin de cette saison 2020. Après le Grand Prix, Toto Wolff a déclaré que c'était juste une question de simplement d'emploi du temps, qu'on n'avait pas trop envie de se réunir en ce moment parce que clairement on a peur que la saison s'arrête si on se transmet un virus. On voit qu'en MotoGP, par exemple, un garçon comme Valentino Rossi l'a contracté et du coup a loupé plusieurs Grands Prix. Alors ça peut paraître une excuse. En même temps, s'il y a un pilote pour qui ça pose absolument aucun problème et qui a tous les éléments sous contrôle, c'est bien Lewis Hamilton. On se doute bien que Mercedes va pas refuser un contrat à Lewis Hamilton. Alors, il y a un chiffre qui a été repris sur le site d'Eurosport.fr. On est à un peu plus de 130 millions d'euros parce que, en fait, Lewis Hamilton, il n'a pas envie d'un contrat d'un an. Il s'appelle pas Valtteri Bottas. Lui, il veut un contrat sur 3 ans. Et 3 ans de Lewis Hamilton, ça vaut cher, Stéphane. Tu veux nous parler un peu sonnant et trébuchant?
Ah ben. En fait, il y a un chiffre qui circule, 132 millions d'euros pour 3 ans. Donc, si je compte bien, ça fait 44 millions. Arrête-moi, Gilles, si mon calcul n'est pas bon. 44 millions d'euros par an. Donc, ça, c'est son chiffre fétiche.
Ah, c'est son numéro c'est son numéro en course.
Voilà, et, exactement. Donc, c'est pas mal de s'aligner là-dessus. Bottas n'est pas prêt de réclamer comme 77 millions d'euros par saison. Non. Mais alors, avec 92 victoires, l'aura qu'il a, c'est vrai que Hamilton vaut bien ses 132 millions d'euros. Mais il a 35 ans. Il y a une petite phrase un petit peu intrigante qu'il a dit jeudi. Il a dit « Je réfléchis encore. Faut vraiment que je veux un contrat à longue durée. Faut que l'écurie le comprenne bien. Mais en même temps, je réfléchis un petit peu dans cette période tourmentée. On sent qu'il n'est pas trop sûr. » Et puis, il veut acquérir ce 7e titre avant de se poser tranquillement pour réfléchir à la suite. Il a 35 ans, je l'ai dit, Gilles, et il y a quelque chose qui nous a quand même intrigué à l'arrivée. Généralement, moi, je regarde, quand il enlève son casque et quand il enlève sa cagoule, Michael Schumacher était toujours comme ça. On a l'impression qu'il venait de faire 3 tours.
La fraîcheur.
Frais comme un gardon, c'était extraordinaire. Et cette année, on avait déjà vu Hamilton un petit peu fatigué. Et là, il nous a raconté une autre histoire. Il nous c'est a dit qu'il avait eu des crampes sur la fin du Grand Prix, assez handicapantes, et qu'il avait, passé quelques tours vraiment très, très délicats, à appuyer très, très fort sur la pédale de frein, que ça lui avait... il s'était demandé s'il allait pouvoir continuer comme ça.
Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on entend parler finalement de physique à propos de Lewis Hamilton. Tu l'as dit, il a 35 ans. Il y a eu effectivement des phrases un petit peu mystérieuses jeudi en conférence de presse. Et en même temps, on sait qu'il a envie de tester les nouvelles voitures, les nouvelles réglementations qui vont arriver en 2022. Tout ça, ça fait que pour le moment, il est urgent d'attendre en fait pour le contrat.
C'est lui qui tient les clés du marché, enfin entre guillemets, parce que tous les grands pilotes sont casés de toute façon. On ne le voit pas ne pas re-signer pour 3 ans, mais il y a une petite interrogation. Alors, on ne va pas dire qu'il pourrait prendre sa retraite, même si Rosberg nous a vraiment surpris de ce point de vue-là. Mais ce contrat de 3 ans pourrait peut-être être le dernier. Je ne sais pas bien. À 35 ans, c'est des questions qu'on se pose inévitablement.
Clairement, il y réfléchit et on va voir ça dans les semaines qui suivent. Mais effectivement, on va voir aussi parce que mathématiquement, il ne peut pas être titré lors du prochain Grand Prix. On a calculé ça avec Thomas Morel qui veille sur le bon déroulement de l'émission. Mais peut-être qu'il attendra effectivement d'avoir assuré sa 7e couronne pour ensuite aller négocier. C'est sûr que quand on a 7 couronnes au-dessus de la tête... Ça donne encore plus de poids pour aller parler argent avec les patrons, les membres du directoire de chez Daimler. On en reparlera forcément, Stéphane, mais voilà, fallait commencer par Lewis Hamilton parce qu'il y a encore des nouvelles lignes de record qui sont tombées. Et je vous le dis, ce chiffre de 92, il est totalement anecdotique. On parlera de 100, voire plus dans les semaines et les mois qui viennent. Le deuxième sujet dont on voulait vous parler, c'est évidemment de la 4e place de Charles Leclerc pendant ce Grand Prix du Portugal, associé à la 10e position de Sébastien Vettel. Ça veut dire que les deux Ferrari sont arrivés dans les points lors de cette dernière épreuve qu'on a vécue la semaine dernière. Et ça n'est pas arrivé si souvent. C'est seulement la 4e fois cette saison que les deux monoplaces rouges sont à l'arrivée d'un Grand Prix. C'est arrivé lors de la première épreuve en Autriche, ensuite à Silverstone lors du 4e rendez-vous et enfin au Grand Prix de Toscane. Charles Leclerc qui est dans une séquence, Stéphane, de 4 Grands Prix consécutifs dans les points. Et on voit que... le rendement est en train d'augmenter. J'ai fait un petit calcul. Sur les 4 derniers Grands Prix, Charles Leclerc a collecté un total de 30 points, alors que sur les 8 premiers Grands Prix de la saison, il en avait marqué 35. Autrement dit, on a quasiment doublé le rendement du pilote monégasque au volant de la Ferrari. Première question que j'ai envie de te poser, est-ce que c'est une sorte de validation du travail qui a été effectué sur la SF1000?
Oui, d'une certaine façon, même si là on est au troisième niveau d'évolution. Mais l'écurie vraiment a minimisé ces petites évolutions, c'est des choses qui vont dans le bon sens. On dit qu'il n'y a rien de très spectaculaire. Ça veut surtout dire, à mon sens, que Leclerc travaille beaucoup, lui aussi, sur lui, pour essayer de combler cet écart et qu'il n'attend pas que la voiture soit meilleure pour faire de meilleurs pronos. Je crois que c'est la 4e fois le week-end dernier que Leclerc était le meilleur des autres, le meilleur des. Pilote non Mercedes et Red Bull. C'est quand même assez significatif par rapport à une voiture qu'on pensait bonne pour la poubelle en début d'année. Et c'est ce travail-là qu'il fait. Et il a axé son travail sur une chose bien précise, c'est son rythme. En essai libre, l'équipe a dit qu'il avait tendance un petit peu à être en dedans, à prendre trop de risques. Bon, c'est ce que faisait un pilote comme Alain Prost pour bien ressentir la voiture, pour mieux la régler. Mais en fait, Leclerc, là, il est passé à autre chose cette année, c'est-à-dire qu'il est en mode qualification dès les essais libres pour tirer 100% de sa voiture, pour bien la sentir. Parce que l'année dernière, son petit défaut, en fait, c'était qu'il y avait un degré d'attaque supplémentaire à avoir en qualification qu'il n'était pas capable parce qu'il n'avait pas tous ses repères. Et ça, c'est important cette année maintenant. Et ça s'est vu dès vendredi, il a fait 2 fois 4e en essais libres, donc il était déjà là et il a continué, en fait, sur cette lancée. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis, il y avait une autre chose l'année dernière qu'il avait clairement dit, c'est l'usure des pneumatiques, la maîtrise. un défaut qui s'était attribué encore en début de saison, et là, qu'il est en train de corriger successivement. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ces résultats, je dirais qu'il y a plus de parts pour Charles Leclerc que pour Sébastien Vettel. Ça me paraît évident. Il a collé d'ailleurs 5 dixièmes à Vettel en Q2. C'était quand même assez significatif. Il est dans sa classe à part, en fait, chez Ferrari.
Ouais, même Sébastien Vettel l'a dit, hein, d'ailleurs, après les qualifications, hein, quand on n'était plus tout à fait dans la même division. Sébastien Vettel qui avait aussi émis l'hypothèse que les deux voitures n'étaient pas tout à fait identiques pour expliquer éventuellement aussi son manque de rendement par rapport à son jeune coéquipier. Et là, il y a eu une déclaration de Mattia Binotto qui a été reprise d'ailleurs sur le site eurosport.fr. Je vous la lis. Hein. Les deux voitures sont identiques, il n'y a aucun doute là-dessus. J'espère que Sébastien Vettel pourra faire une belle qualification à Imola. Charles Leclerc est très bon, mais nous sommes en droit de nous attendre à un peu plus d'un deuxième pilote. Deux informations dans cette citation, Stéphane. D'abord, la confirmation par Mattia Binotto que les deux autos sont strictement identiques. On ne donne pas des évolutions. On sait qu'on a beaucoup travaillé, notamment sur le fond plat et sur l'arrière de la monoplace. On ne donne pas ces évolutions que à Charles Leclerc en laissant Sébastien Vettel de côté. La deuxième information, c'est que le deuxième pilote, c'est bel et bien Sébastien Vettel. Ça ressemble à quelqu'un qui frappe un peu du poing sur la table.
C'était dans les faits. Je pense que là, on retrouve le côté un petit peu paranoïaque de tous les pilotes quand ils ne comprennent pas où se situe l'écart par rapport à leur coéquipier et qu'ils cherchent ailleurs qu'à travailler sur eux-mêmes. Vettel est un petit peu perdu. Ça, c'est un aveu de faiblesse quand même assez terrible et qui nous renvoie aussi à la sanction qu'il a eue en mai dernier. Ferrari avait raison de le remercier à la fin de cette année. Qu'en aurait-il été s'il avait signé ou s'il avait dans les mains déjà un contrat de 2 ou 3 ans encore à faire chez Ferrari? Quel calvaire. Je pense que Ferrari peut s'appuyer sur Leclerc et dire merci à Vettel pour tout ce qu'il a fait, mais je crois qu'on compte déjà plus sur lui. Mais c'est presque un petit peu étonnant de sa part. On n'est plus dans le rationnel du côté de Vettel.
Oui, c'est étonnant, je suis d'accord. Après, on sera toujours en droit de se poser la question, est-ce qu'il aurait été aussi démobilisé s'il n'avait pas été remercié par la Scuderia? On ne le saura jamais, on ne peut pas faire de la politique fiction. Moi, ce qui m'a vraiment étonné pendant ce Grand Prix, en fait, c'est après le Grand Prix qu'on l'a appris pendant les déclarations des pilotes, c'est que donc dans ce premier tour où il commence à tomber un petit peu de pluie, et on a vu que ça a occasionné quand même quelques moments assez incroyables, et notamment la remontée de Kimi Raikkonen, Charles Leclerc demande à son équipe mais il pleut là, bon, il veut des informations sur la météo, et alors là, alors que toutes les caméras du monde entier montrent qu'il pleut, sur le muret on lui dit ah non, il pleut pas. Et là, tu te dis que si c'est les mêmes ingénieurs qui travaillent sur la météo chez Ferrari que ceux qui ont fait la SF1000, eh ben ils sont pas prêts de gagner chez Ferrari parce que en gros là on parle même plus de prévision. Il s'agit juste de tendre la main en dehors du box pour voir que oui effectivement il y a des gouttes qui tombent, ça s'appelle de la pluie. Allô Charles, oui il pleut. Enfin, on est vraiment dans une situation d'une équipe qui paraît quand même à un degré de manque de communication et de démobilisation qui est assez effarant.
Oui, ça arrive à Ferrari de creuser un petit peu, comme on pourrait dire. De temps en temps, ils ont perdu un pneu, ils cherchaient un pneu dans les stands lors d'un pit stop cette année. Il y a des couacs comme ça, des fails, comme on dit, extraordinaires.
Voilà, c'est énorme.
Je me souviens que les temps changent parce que du temps de Jean Todt, donc il y a une vingtaine d'années, Ferrari avait un contrat spécifique avec un fournisseur météo très connu et qui avait les meilleures prévisions sur tous les circuits du monde, et ce genre de choses n'arrivait pas très clairement.
Tu crois que là il y a un prévisionniste météo qui leur aurait dit ah non il pleut pas?
Vraiment, c'est... voilà, bon, je sais pas, il leur faut une grenouille chez Ferrari, je sais pas, qu'on la mette dans le stand et puis on la regardera, on verra un petit peu comment ça se passe et peut-être qu'elle donnera des meilleures infos, parce qu'effectivement l'équipe se trompe à ce point-là, c'est très étrange.
Voilà, bon, enfin bref, on en sourit, mais c'est quand même symptomatique de quelques petites choses qui ne fonctionnent encore pas, mais on est très très heureux de voir que ça remonte petit à petit la pente. Et puis alors, déclaration qui est arrivée quelques minutes avant qu'on débute cet enregistrement, Stéphane, Mattia Binotto, lui, à la 3e place du championnat des constructeurs, Eh ben, il pense que c'est encore possible. Là, on improvise, on n'a pas prévu cette question. Mais finalement, ils ne sont pas si, si loin que ça de la troisième place du classement des constructeurs, hein, Stéphane.
Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Tout ce que je sais ce week-end, c'est que
je vais te les donner. Bouge pas.
AlphaTauri, c'était juste très important pour eux parce qu'ils sont sixième et cette sixième place, il faut qu'ils la tiennent. C'est déjà une question de standing.
Alors, la Scuderia Ferrari a 93 points au classement des constructeurs, donc ils sont sixième. Et pour l'instant, Racing Point, qui tient cette troisième place, a 126 points. Donc, ça fait 33 points de retard. C'est jouable.
Non, c'est très optimiste quand même.
Moi, j'essaye de jouer, de voir le verre à moitié plein.
Alors, je sais déjà que Kimi Räikkönen a prouvé qu'on peut battre deux adversaires d'une façon stupéfiante en 2007. Mais là, ils ont quand même trois adversaires importants. Ça va quand même être très difficile. Je pense que c'est pas très réaliste. Ça ressemble un petit peu à de la communication avant d'arriver à Imola. Voilà.
Ouais, ou à de la méthode Coué aussi. Éventuellement, on verra s'il a raison. Faudra qu'on se souvienne que avant même le Grand Prix d'Imola, Mattia Binotto avait prédit que Ferrari terminerait troisième du classement des constructeurs. Si ça arrive, il aura gagné un sacré pari. Je sais pas s'il va parier un tatouage lui aussi. On en reparlera. On va évoquer maintenant, si tu veux bien, Stéphane, dans les fous du volant, le marché des pilotes, ce qu'on appelle la silly season, alors qui est forcément un petit peu décalé avec ce calendrier 2020 un petit peu particulier. Et en échangeant tous les deux, on sent venir quand même des petites choses qui nous dérangent. Alors, est-ce qu'on parle de scandale ou pas? Franchement, potentiellement, oui. Avec notamment deux pilotes. On va d'abord commencer, si tu veux bien, par George Russell, qui va être sacrifié, en gros, du côté de chez Williams, pour faire place nette à Sergio Pérez. Même si Simon Roberts a très mollement, trop mollement, en fait, confirmé George Russell dans ses fonctions, on sent qu'il va chuter, hein, George Russell, et qu'on va faire, on va laisser la place à quelqu'un qui va ramener un gros financement en la personne de Sergio Pérez. C'est comme ça que tu sens les choses, Stéphane ?
C'est comme ça que ça s'était passé avec Nico Hülkenberg en 2010. Hülkenberg est un débutant qui a fait une très très bonne saison et qui avait été remercié pour laisser la place au pétrodollar de Maldonado, je crois, si je me souviens bien. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que le contrat de Russell n'est pas lié à la motorisation Mercedes comme tout le monde le pensait. Toto Wolff l'a dit, Williams aura un moteur Mercedes jusqu'à 2025 inclus, mais ça n'assure pas la présence, ça n'impose pas la présence de George Russell dans l'équipe. Donc il y a fort à parier effectivement que apparemment ça va être décidé en conseil d'administration et que on préférera la dotation de Pérez plutôt que les promesses de Russell. Alors, en termes de résultats, ça sera peut-être équivalent, mais c'est quand même particulièrement inélégant et inquiétant sur la tendance que prend le marché des transferts. Il y a beaucoup de pilotes payants, il y aura beaucoup de pilotes payants l'an prochain.
Alors, effectivement, sur le point de vue sportif, c'est pas totalement scandaleux parce que on va revenir 5 secondes sur ce Grand Prix du Portugal pour Sergio Pérez qui s'accroche dans le premier tour avec Max Verstappen. Bon, il n'est pas innocent dans cet accrochage et en même temps, on va dire que c'est un fait de course. Il repart donc dernier et il remonte jusqu'à la cinquième place. Donc là, on va dire que c'est un Grand Prix assez extraordinaire qu'il mène. Il se bagarre avec Pierre Gasly pour la cinquième place en faisant une défense qui n'est ni fait ni à faire. Il a d'ailleurs pris une réprimande de la part de la FIA pour son mouvement qui est complètement fou pour défendre cette cinquième place sur Pierre Gasly. C'est un peu Dr Sergio et Mister Pérez, quoi. C'est le meilleur et le pire dans le même Grand Prix. S'il n'y avait que le meilleur, c'est clair qu'en ayant en plus des partenaires financiers très lourds, Sergio Pérez serait irrésistible. Mais quand on voit ce qu'il fait en parallèle, on se dit qu'on va peut-être sacrifier un jeune espoir prometteur britannique pour laisser la place à quelqu'un qui, maintenant, n'est plus un espoir, c'est pas lui faire offense, mais qui a de l'argent, en tout cas, qui a des sponsors qui viennent avec lui. Ça, c'est dérangeant.
Oui, et Pérez aurait pu s'abstenir. Je comprends qu'on a envie de défendre durement, c'était la fin de course, mais il aurait pu aussi s'éviter l'humiliation du tour suivant, quand Gasly lui a fait l'extérieur proprement, imparablement. Il aurait pu le laisser passer, je dirais, proprement. Mais bon, chez Racing Point, on ne sait pas trop faire ce type de manœuvre, apparemment, quand on voit aussi ce que fait de temps en temps son coéquipier Lance Stroll.
Alors justement, exactement. Alors comme tu parlais de Pierre Gasly, on va rester sur le cas du Français, parce que là aussi, alors là, il y a un scandale potentiel qui est en train d'arriver, parce que Pierre Gasly, encore une fois, très solide à Portimao, il prend la cinquième place, et pourtant, ça y est, la piste Red Bull s'est définitivement refermée, c'est en gros Christian Horner qui l'a fermée lui-même. Pendant ce temps-là, Alexander Albon, lui, a pris une modeste 12e place. Le podium d'Albon, maintenant, il est parti aux oubliettes. Le crédit qui allait avec ce podium du Thaïlandais, ça y est, c'est effacé chez Red Bull. Albon est redevenu éjectable pour toi, Stéphane ?
Un podium en 12 courses, c'est quand même un ratio extrêmement faible quand on sait que c'est la normalité, la banalité totale pour Verstappen. Donc là, oui, Horner lui avait même demandé avant ce Grand Prix à Portimao de se reprendre, clairement, en qualification comme en course. Il avait dit qu'il faut vraiment qu'il fasse un bon week-end du début à la fin et enchaîner à Imola. Donc la première partie du contrat n'est pas respectée. Donc je pense que dimanche soir, on aura une vision beaucoup plus claire de qui sera dans la voiture l'an prochain. En tous les cas, je pense pas Albon. Et Horner, à propos de Gasly, a dit... chez Red Bull, non. Il est dans un bon environnement, il est à l'aise chez AlphaTauri, où il y a moins de pression et où les objectifs sont moins élevés. Donc là, c'est pareil, c'était pas très gentil. Et on se demande, c'est un petit peu étonnant de la part d'Horner de dire ça. C'était pas dans ses habitudes. Et bon, je me pose un petit peu la question de la répartition des rôles chez Red Bull, franchement.
Bah, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que traditionnellement, hein, chez Red Bull, d'abord, c'est Helmut Marko, normalement, qui gère les pilotes. Et Christian Horner, lui, est plutôt aux commandes de l'équipe mère et du côté, on va dire, de l'aspect politique. Les négociations pour les accords Concorde, toutes ces choses-là. Et là, on sent que c'est un peu plus Christian Horner qui, dans le cas de Gasly, se charge du trash talk. En fait, le bad cop dans l'affaire Gasly, eh ben, c'est Christian Horner qui l'a endossé. Et moi, je trouve ça assez, assez étonnant quand même. Et je pense que ça agace aussi Helmut Marko, qui voit finalement son rayon d'action un petit peu réduit. Je pense qu'on saura, une fois que Pierre Gasly est sorti de l'environnement Red Bull, ce qui s'est vraiment dit l'année dernière entre Christian Horner et Pierre Gasly. Le Français, pour l'instant, il n'a jamais dit un mot, que ce soit évidemment devant les caméras, mais même en off, il n'a jamais rien dit de ce qui s'est passé dans l'entremise de l'équipe Red Bull. Je suis persuadé que Christian Horner se doute qu'un jour, l'effet boomerang va lui retomber en plein milieu de la figure, et que c'est pour ça qu'il garde vraiment une dent contre Pierre Gasly, qui, à mon avis, l'a regardé les yeux dans les yeux en lui disant ce que tu fais, c'est pas tout à fait correct. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le courage de lui dire. Pendant ce temps-là, on sent bien aussi que du côté de chez AlphaTauri et de Franz Tost notamment, on demande un petit peu plus d'autonomie, parce qu'on a un garçon sur lequel bâtir un plan, des projets, une équipe et les ambitions. Alors évidemment, AlphaTauri vise pas de faire partie des top teams à chaque Grand Prix, mais il n'y a pas moins de pression. Et le fait que Christian Horner empiète sur le précaré de Helmut Marko, que Franz Tost commence à demander un petit peu plus d'autonomie, je ne serais pas étonné qu'un jour on parle de la position même de Christian Horner chez Red Bull, parce que je pense que ça ne doit pas être le calme plat tous les jours, si tu veux mon avis. Et on n'a pas encore parlé du cas Nico Hülkenberg, que, alors là, pour le coup, Helmut Marko a mis aussi dans la danse, parce qu'il va se passer des choses éventuellement aussi avec Nico Hülkenberg, et ça peut menacer Pierre Gasly. Et là, ça peut vraiment être scandaleux, Stéphane.
Bah là, ça leur ferait 5 pilotes pour 4 places pour l'an prochain, puisque le jeune Yuki Tsunoda, qui qui est soutenu par Red Bull, qui appartient à la filière Red Bull et aussi à la filière Honda, est plus que pressenti pour aller chez AlphaTauri l'an prochain à la place de Kvyat. Mais alors, si on rétrograde Albon chez AlphaTauri, il n'y a plus de place pour Pierre Gasly, qui, faut le rappeler, est en fin de contrat. Alors, ce que je ne saisis pas bien, c'est que Red Bull ne communique pas sur le contrat de Pierre Gasly. Soit, s'ils ne veulent pas le faire retourner chez Red Bull, il faut l'officialiser tout de suite pour l'an prochain chez AlphaTauri. Point. On ne va pas plus loin. Et puis là, au moins, ce sera clair déjà. Mais non, on ne fait pas ça. Donc, j'espère que ce n'est pas l'hypothèse qui va se révéler là exact cet hiver avec Gasly qui se retrouve sous la touche. Là, pour le coup, tu l'as dit, Gilles, ce serait vraiment un scandale. Mais ou alors, en ce moment-là, on ne va pas faire monter Tsunoda, mais Honda va quand même pousser pour ça. Ouais. Et puis, il faut quand même renouveler les pilotes. C'est un jeune pilote qui est quand même prometteur. Donc, il va y avoir une victime dans cette affaire chez Red Bull et AlphaTauri.
Exactement, on verra, on surveillera cela de près, mais on avait envie de vous en parler parce que on sent poindre possiblement quelque chose là qui est absolument insupportable et on en reparlera très très régulièrement parce que ça nous énerve un peu pour tout vous dire. Alors ça c'était pour le cas de Pierre Gasly. On va évoquer maintenant, si tu veux bien, la carrière de Romain Grosjean en Formule 1 qui va donc s'achever au terme de cette saison 2020. 176 départs en Formule 1 pour Romain Grosjean, 10 podiums et donc son contrat n'a pas été renouvelé chez Haas, tout comme son coéquipier Magnussen. Alors on va rapidement rappeler hein, quelques faits d'armes de Romain Grosjean. Il est arrivé en cours de saison chez Renault en 2009, en remplacement de Nelson Piquet Jr., alors qu'il était à la bagarre pour le titre en GP2, ce qui était à l'époque l'équivalent de la Formule 2. Bilan des courses, évidemment, il n'est pas titré en GP2. Il n'est pas gardé chez Renault pour la saison suivante. On préfère Petrov, et de mémoire, ça devait être Kubica. Et donc, il se retrouve le bec dans l'eau. Finalement, il arrive chez Lotus quand même en 2012. Avec une série de départs très compliqués, de gros crashs. On se souvient notamment celui de Belgique, qui vont lui valoir un grand prix de suspension. Et une image là, qui va lui coller à la peau ensuite. Malgré cela, il enchaîne donc, durant la saison 2013, 6 podiums durant la saison. Et c'est passé tout près, vraiment, d'aller chercher la victoire. 10 podiums sans être allé chercher un seul succès. Stéphane, toi qui aimes bien les statistiques, c'est rare dans l'histoire de la Formule 1.
Pour résumer, effectivement, la carrière de Romain Grosjean, c'est une suite d'occasions manquées. Ça ressemble à un gâchis, vraiment, par rapport à un talent énorme dans les catégories inférieures et qu'il a survolé, franchement. Aujourd'hui, il est dans le top 4 des pilotes qui ont fait des podiums sans gagner. Alors, il fait des premiers devant Johansson. Donc, ces deux pilotes-là n'ont pas gagné le Grand Prix. C'était pas illogique. Hamon est troisième. Hamon aurait dû en gagner un et même plusieurs. Et puis, arrive derrière Romain Grosjean, qui en a 10 en tout. Et c'est vrai que c'est une petite anomalie. Alors, on pourra revenir sur plusieurs Grands Prix. Nürburgring 2013, par exemple, qui est un grand regret. Les choses sont comme ça. C'est le regret de cette victoire que certains pilotes ont pu avoir par chance dans leur carrière, que Romain Grosjean n'a pas eu, qu'il méritait, spécialement chez Lotus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles.
Bah oui, je suis d'accord avec toi sur le mot gâchis. Pour moi, c'est clairement le genre de pilote pour qui une victoire aurait tout changé dans la carrière parce que ça aurait légitimé sa place en Formule 1 dans le paddock et aussi à ses propres yeux. Je suis persuadé que Romain Grosjean a eu très très longtemps des doutes sur sa propre légitimité et qu'il en a souvent trop fait pour essayer de prouver des choses et c'est malheureusement une erreur que certains sportifs dans tous les domaines font régulièrement. Et c'est évidemment un immense gâchis. Je pense que s'il avait été peut-être un petit peu mieux géré, il l'a dit hein, d'ailleurs, hein, que sans s'innocenter lui-même, d'ailleurs parce qu'il a forcément une part de responsabilité, mais Je pense qu'avec un petit peu de recul, il aurait géré certains événements un petit peu différemment. Son attitude aussi, parfois, a dérangé. Et c'est comme ça, quand on est jeune, ça arrive. Mais à côté de ça, il a des côtés très, très attachants. Quand Pierre Gasly a gagné son Grand Prix, il est venu le féliciter. C'était devant les caméras, parce que vous doutez bien que Pierre Gasly était suivi de près. Et après, il est interrogé. Et sur sa course à lui, il dit « Mais non, mais moi, ma course, on s'en moque. Aujourd'hui, le héros, c'est Pierre. » Et on le sent finalement heureux, alors que lui aurait pu, à plusieurs reprises, mettre fin à cette attente de 24 années, hein, finalement, de victoire d'un Français en Grand Prix. C'est passé tellement près et ça aurait changé vraiment sa carrière. Et pourtant, on a senti à ce moment-là qu'il n'y avait pas d'amertume vis-à-vis de Pierre Gasly. Et ça, je trouve que ça... Ça dit aussi quelque chose du fond du bonhomme. C'est un mec gentil qui a pas toujours été compris. Alors, il en porte une part de responsabilité, mais je pense qu'il a pas toujours été entouré de manière optimale. Finalement, l'épisode avec Lotus s'achève à la fin 2015 et il rejoint ensuite l'équipe Haas Grand Prix. Et là, ça continue de se compliquer pour lui.
Oui, pour revenir juste sur 2012-2013, Romain, il y a un jour, il avait peut-être fait une erreur, la victoire était à sa portée, peut-être un manque d'expérience ou précipitation. Il dit, bon, c'est pas grave, je termine deuxième, mais dans des occasions, il y en aura d'autres. Et là, je m'étais dit, non, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand le train va repasser, combien de fois. Et d'une année sur l'autre, les voitures changent tellement que tout peut être si vite remis en question que il faut profiter de l'instant présent et tout maximiser. Et c'est peut-être ce qu'il n'a pas su faire avec beaucoup de précipitation. Et pour moi, Romain, c'est de la spontanéité dans la communication. C'est vrai, Gilles, tu l'as très, très bien dit. Et il y a ce regret, effectivement, d'en avoir trop fait, même par rapport à Marc Weber sur les départs en 2012, c'est infernal. Et tu as noté Spa. Et moi, quand je pense à Spa, je pense surtout à ce Grand Prix qui a en fait coûté le titre mondial à Alonso. Parce qu'en en fin d'année, je crois qu'il lui manque 3 points. Et c'est un abandon qui lui coûte un titre. C'est regrettable. Alors, il quitte Lotus, ça veut dire qu'il quitte son mentor, fin 2015, Éric Boullier, qui, en fait, a fait quelque chose d'extraordinaire, qui avait compris, fin 2009, que c'était un pilote, on va dire, qui était cassé, qui avait été jeté trop tôt en Formule 1 dans de mauvaises conditions, dans une écurie Renault qui voulait passer le témoin à Lotus, et qui lui avait dit, la première chose à faire, c'est reprendre du plaisir. Et c'est pour ça que Romain avait fait les 24 heures du Mans avec... Ford, quand j'étais, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et puis, il était reparti sur du GP2 pour être champion, pour revenir avec une légitimité. C'est extraordinaire. Et je me souviens même d'une chose, c'est qu'après cette année 2012 et 2013, il avait beaucoup de crédit. Raikkonen avait fait un retour chez Ferrari qui était un petit peu compliqué, on va dire. Et sans faire sourire, mais vraiment, il faut s'en souvenir, Luca di Montezemolo avait dit pour un deuxième baquet, un poste de pilote numéro 2, parce que Alonso arrivait, il avait dit, on regarde ce que fait Romain Grosjean et ce que fait Nico Hülkenberg. Donc, Romain, il a été au sommet de sa carrière à ce niveau-là, au sommet de son crédit, et il était vraiment dans le radar de Ferrari. Ça, faudra jamais l'oublier. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a réalisé. Après, il y a eu Haas. C'était une aventure, mais on a senti que c'était quand même un déclassement, très clairement. Et on savait pas trop comment est-ce qu'il pourrait en sortir par le haut. Puis à un moment, son objectif, ça a été de rester et de prolonger l'aventure. Mais c'était peut-être trompé aussi sur le modèle, le business plan en Formule 1 pour gagner. Et il a stagné. Et je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire, de quitter la Formule 1 avec un regret mais sans amertume. C'est surtout ça.
Exactement.
Mais bon, alors pour la suite, je sais pas vers quoi il va s'orienter, mais je crois, Gilles, que t'as des infos là-dessus. Je crois que t'as fouillé.
Alors on a fouillé un petit peu. On avait évoqué les recherches de Romain Grosjean, soit en Formule AE, soit en endurance, soit les deux. D'ailleurs, il a fait une séance de simulateur en Formule E chez Mahindra. Les choses semblaient vraiment bien avancer. Apparemment, il y a un loup chez Mahindra. Il y aurait déjà deux pilotes de signés. On ne sait pas trop exactement ce qui se passe. J'ai eu quelqu'un de chez Mahindra en interne. C'est assez bizarre. Il y a des non-dits assez étranges. Il reste un baquet en Formule E chez un constructeur, c'est chez BMW, mais qui apparemment ne serait pas très, très bien payé. Donc après, reste à savoir quel est l'intérêt pour un pilote comme Romain d'aller dans une équipe sans gagner sa vie. Ça, c'est un choix personnel à faire. Le sentiment général, c'est que Romain Grosjean en Formule E pour la saison 2021, ça paraît assez mal engagé. Alors, on avait parlé de l'endurance. On sait que Peugeot arrive en endurance en 2022. Ça paraît là aussi un petit peu compliqué. Apparemment, Romain Grosjean fait pas partie des pilotes de pointe. Peugeot voudrait avoir vraiment un Top Gun à mettre dans sa voiture à partir de 2022. Et apparemment, Romain Grosjean ne fait pas partie des plans de la firme au Lyon. Ça, c'est ce qu'on sait ensuite. Alors, il pourrait y avoir éventuellement de l'endurance. Pas forcément en championnat du monde. Donc, pas tout de suite, en tout cas. Éventuellement, de l'autre côté des États-Unis. Mais ça continue de chercher activement du côté de Romain Grosjean. Et on espère le voir continuer de rouler. Parce qu'il y a quand même un capital, une expérience qu'il serait dommage de ne pas exploiter. Nous, on l'aime bien parce qu'il est toujours, spectaculaire. Et tu l'as dit, il dit des choses devant les caméras. C'est Romain Grosjean, je ne sais pas pourquoi je parle de Sébastien qui est un tennisman et j'y connais rien en tennis. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. Mais il dit, Romain Grosjean, ça fait partie des pilotes qui te disent des choses quand ils sont à ton micro. J'ai eu l'occasion de l'interroger quelques fois. Et on sait très bien que 99% des pilotes, c'est de l'eau tiède hein, qui coule quand ils vous répondent, surtout pas faire de vagues. Et Romain, régulièrement, il lâche des infos. Ça lui a peut-être coûté parfois, d'ailleurs, dans sa carrière. Donc voilà, on aimerait bien le revoir faire des choses intéressantes et dans lesquelles il prendra du plaisir. On est d'accord là-dessus, Stéphane ?
Oui, je pense malheureusement que chez As, on n'y gagnera pas au changement.
Exactement.
Même si je redis, le départ de Magnussen ne m'affecte pas spécialement.
Oh, Magnussen, bon. on devrait le revoir du côté de l'IndyCar, je pense, toujours d'après mes informations. On va éventuellement donner les dernières informations qu'on peut donner à ceux qui regardent les fous du volant, c'est les horaires pour le prochain Grand Prix d'Émilie-Romagne, parce qu'ils sont particuliers, ces horaires. Ce n'est pas la peine d'essayer de voir une séance d'essai libre vendredi. Il n'y en aura pas. Ce n'est pas comme au Nürburgring. Ce n'est pas à cause de la météo. C'est tout simplement parce que c'est un week-end. Sur deux jours, on expérimente. Donc, séance d'essai libre, 1 à partir de 10h samedi. Et ensuite, à 14h, qualif. Voilà, messieurs, vous êtes dans le bain tout de suite. Il n'y a pas le temps de tergiverser. Malheur à celui qui commet une erreur en essai libre 1, c'est la qualif directe après, et le Grand Prix sera dimanche à 13h10 sur ce circuit d'Imola. Est-ce que tu as une prédiction à nous faire, Stéphane, sur ce Grand Prix? On a parlé de Ferrari à Imola, peut-être dans la foulée là, de cette résurgence. Est-ce qu'on peut espérer des belles choses?
Alors à Imola, on est sur le circuit Enzo et Dino Ferrari,
et oui.
Donc ça, c'est important. Malheureusement, je ne vois pas un très bon Grand Prix pour la Scuderia. Je pense qu'ils vont souffrir, il y a un risque de rechute, clairement. Le centrage de choix des pneumatiques Pirelli est le même qu'au Nürburgring. Il devrait faire aussi froid qu'au Nürburgring. Donc, les pneus tendres devraient vraiment être de mise en Q2, en Q3, samedi après-midi. Et ce qui n'avantage pas du tout la SF1000 qui est accro aux pneus médium. Et là, je pense pas qu'un top 4 sera possible en qualif en course. Bon, j'espère me tromper.
On verra ça. Ce podcast des fous du volant, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas, donnez-nous 5 étoiles, abonnez-vous. Et comme ça, dès qu'on fera un nouvel épisode des fous du volant, et bien vous retrouvez ce nouvel épisode sur vos applications. Tu n'as plus rien à ajouter, Stéphane?
Non, vive le prochain Grand Prix, le Grand Prix d'Emilie-Romagne en Italie, à Imola. On s'en réjouit pour une expérimentation sur deux jours, effectivement sur un programme particulier.
Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour le prochain podcast des fous du volant. D'ici là, on coupe le contact. Salut.